Wilkie Collins, Baiser furtif, Conte de Noël. Chapitre 1. La nuit était finie. Le jour nouveau-né attendait l'astre vivifiant dans ce silence inconnu à terre, ce silence qui précède le lever du soleil lorsque le calme plane sur la mer. Pas un souffle dans l'air, pas une ride sur l'eau. Rien ne changeait, excepté la lumière qui doucement grandissait à l'horizon. Rien ne bougeait, sinon le brouillard dont les masses paresseuses montaient, attirées par le soleil. Graduellement, la brume s'éclaircit. Au premier rayon de l'aurore, elle laissait entrevoir les voiles blanches d'un schooner yacht. De la poupe à la proue, le silence régnait à bord du navire comme sur la mer. Un seul être vivant se trouvait sur le pont, le timonier, qui sommeillait paisiblement, le bras sur la barre du gouvernail devenu inutile. De minute en minute, la clarté augmentait et déjà la chaleur du jour se faisait sentir. L'homme à la barre était encore assoupi, les voiles pendaient immobiles, l'eau dormait contre les flancs de la goélette. L'orbe radieux était sorti des flots quand le premier bruit troubla le silence du matin. C'était le cri lointain d'un oiseau de mer qui retentit brusquement dans la dernière spirale de vapeur qui s'élevait à l'horizon. Le timonier s'éveilla, regarda ses voiles inertes et ne put réprimer un bâillement. Puis il examina la mer et hocha la tête en constatant un calme plat. « Où est le cap ?» demanda une voix dure et impérieuse qui venait de l'escalier de la cabine. « Où vous voudrez, patron, il fait le tour de la boussole. » Le patron du yacht parut sur le tillac. « Regardez-le bien, c'est Richard Turlington, Esquire, de la célèbre maison d'importation Pizzituti, Turlington et Branca. Âgé de 38 ans, trapu et carré, M. Turlington présentait à ses contemporains un visage qui pouvait passer pour un spécimen réussi du style angulaire. Le front dessinait une ligne droite perpendiculaire, la lèvre supérieure en était une autre, et le menton, la plus longue et la plus droite des trois. Lorsqu'il tourna sa figure basanée du côté du levant et qu'il protégea contre le soleil ses yeux d'un gris clair, ses mains noueuses disaient assez haut qu'elle lui avait gagné sa subsistance un jour ou l'autre dans sa vie. En définitive, c'était un homme qui se faisait aisément respecter, mais qui devait être difficile d'aimer. « Calme plat, hier !» grommela Richard Turlington entre ses dents, pendant que ses regards scrutaient l'horizon. « Et calme plat aujourd'hui ! Assez comme cela ! L'année prochaine, j'aurai une machine !» Pensez à la poussière des charbons et à l'infernale vibration et laissez votre beau yacht tel qu'il est. Nous sommes dehors par jour de fête. Eh bien, le vent et la mer se reposent comme tout le monde. » Celui qui donnait la réplique au patron était un jeune homme leste et mince qui parut sur le pont, tenant ses vêtements sous son bras, une serviette à la main et simplement couvert d'une robe de chambre avec laquelle il était sorti de son lit. « Lancelot Lindsay, vous avez été admis à mon bord à titre de médecin attaché à la personne de Miss Nathalie Graybrooke sur la demande de son père. Chacun à sa place, s'il vous plaît. Quand j'aurai besoin de vos conseils, je vous en informerai. » En parlant de la sorte, le plus âgé des deux hommes fixait sur l'autre ses yeux incolores avec une expression qui disait clairement « Bientôt, il n'y aura plus de place ici pour nous deux. » Lancelot Lindsay avait apparemment ses raisons pour ne pas s'offenser des observations de son hôte. « Je vous remercie, » dit-il d'un ton de bonne humeur ironique. « Il ne m'est pas facile de rester à ma place ici. C'est plus fort que moi. Je me réjouis comme si j'étais le propriétaire du bâtiment. Cette vie est si nouvelle pour moi. Par exemple, j'admire comme on a vite fait de se laver. À terre, c'est une question compliquée de poser de cuvette et l'on a toujours peur de casser quelque chose, tandis qu'ici, on sort de son lit, on va sur le pont et on fait comme je vais faire. » Il tourna sur ses talons et courut vers l'avant. En un clin d'œil, il avait jeté sa robe de chambre, enjambé le plat-bord, et on le vit s'ébattre dans 60 brasses d'eau salée. Les yeux de Richard Turlington le suivirent avec une attention mêlée de déplaisir pendant qu'il faisait en nageant le tour du navire. Son esprit, toujours lent et méthodique dans ses opérations, le prenait pour sujet d'un problème qu'il se posait dans ces termes. Lancelot Lindsay a 15 ans de moins que moi. De plus, il est le cousin de Nathalie Greybrook. Étant donné ces deux avantages, on demande « S'est-il fait agréer de Nathalie ?» Préoccupé de cette grave question, Richard Turlington s'assit dans un coin à l'arrière du bâtiment. Il était encore tout à ses méditations quand le jeune médecin rentra dans sa cabine pour achever sa toilette du matin. Il n'avait pas résolu son problème quand le steward vint, une heure plus tard, lui annoncer que le déjeuner était servi. Il y avait ensuite Miss Lavinia Greybrook, la sœur de Sir Joseph, restée demoiselle. On eût dit Sir Joseph en jupon. Connaissant l'un, vous connaissiez l'autre. Et puis Miss Nathalie Greybrook, la fille unique de Sir Joseph. Elle avait l'extérieur et le tempérament de sa mère, morte depuis longtemps. La famille de feu Lady Greybrook était originaire de la Martinique et on disait que le sang français s'y était mêlé avec le sang nègre. Nathalie était brune comme sa mère, elle en avait les superbes cheveux de jais et les yeux noirs pleins de langueur. À 15 ans, elle était très grande et complètement développée, comme une Anglaise l'est rarement avant l'âge de 20 ans. Sa taille, souple et bien prise, était celle d'une femme faite. La grâce indolente de ses mouvements avait pour ressort moteur une décision presque virile et une remarquable force physique. Cela ne l'empêchait pas d'avoir les façons gentilles d'une petite pensionnaire. La douceur de son père semblait greffée sur le tempérament méridional de sa mère. Elle marchait comme une déesse, elle riait comme une enfant. Au printemps, des symptômes d'une croissance trop rapide avaient inquiété son entourage. Le médecin de la famille avait conseillé une promenade en mer pendant les mois d'été. Richard Turlington s'était empressé de mettre à sa disposition son yacht et sa personne. La jeune malade s'embarqua donc pour sa croisière en compagnie de son père, de sa tante et de son cousin Lancelot, familièrement Lance, chargé de veiller à l'exécution des ordonnances d'un célèbre docteur. Après 2 mois, passés à longer nonchalamment les côtes d'Angleterre, tout ce qui reste de l'infirmité de Nathalie est une certaine langueur du regard et une parfaite incapacité de s'occuper de quoi que ce soit de sérieux. Qui l'eût vue assise à cette table, dans sa jolie toilette de voyage en nankin, ses manières enfantines contrastant gentiment avec la florissante maturité de ses formes, celui-là aurait eu besoin d'une triple cuirasse de haute philosophie pour nier que le premier droit de la femme est la beauté et son premier mérite la jeunesse. Les deux autres convives étaient les deux gentlemen avec lesquels le lecteur a déjà fait connaissance. « Pas un souffle dans l'air, » disait Richard Turlington. « Le temps nous a pris en grippe. Nous n'avons pas fait 5 miles en 48 heures. Vous ne voudrez plus faire de croisière avec moi. Je parie que vous regrettez la terre. » Ces paroles s'adressaient à Nathalie. Il était visible qu'il s'efforçait de lui plaire et visible aussi qu'il perdait sa peine. Elle fit une réponse polie et regarda sa tasse de thé au lieu de regarder Turlington. « Vous pourriez vous croire à terre en ce moment, » dit alors Lancelot. « Le navire ne bouge pas plus qu'une maison, et cette table suspendue est horizontale comme celle de votre salle à manger. » Lui aussi parlait à Nathalie, mais sans montrer ce désir de se rendre agréable qu'avait laissé percer Turlington. Ce n'en fut pas moins lui qui réussit à la distraire de son thé, et ce fut son idée à lui qu'il trouva un écho dans l'esprit de Nathalie. « Ce sera si étrange pour moi, répondit-elle, de me retrouver dans une chambre qui ne tourne pas, de m'asseoir à une table qui ne vient pas tantôt s'abaisser sur mes genoux, tantôt se relever jusqu'à mon menton. Je regretterai le bruit de l'eau près de mon oreille et la cloche du pont quand il m'arrivera de ne pas dormir la nuit. Là-bas, on ne s'inquiétera plus de savoir d'où souffle le vent et comment sont orientées les voiles. On ne demandera plus son chemin au soleil avec un petit instrument de cuivre, une feuille de papier et un crayon. On n'ira plus au gré du vent, va comme je te pousse. Ah, que je regretterai donc la mer inconstante, la mer capricieuse. Quel dommage que je ne sois pas un homme et un matelot. » Tout ceci s'adressait aux hôtes que le patron avait bien voulu admettre à son bord. Pas une parole, même en passant, pour Richard Turlington lui-même. Ses épais sourcils se contractèrent avec une expression de mécontentement manifeste. « Si ce calme persiste, reprit-il, s'adressant cette fois à Sir Joseph, j'ai bien peur, Greybrook, que je ne puisse pas vous ramener à la fin de la semaine au port dont nous sommes partis. » « Quand il vous plaira, Richard, répondit le vieux gentleman d'un ton résigné. « Le temps m'est indifférent. »«
Indifférent dans une limite raisonnable, Joseph !» intervint Miss Lavinia, qui jugea évidemment que son frère faisait une concession trop large.
Elle parlait avec le sourire agréable de son frère et avec sa voix douce et caressante. Deux jumeaux ne pouvaient se ressembler davantage. Pendant que la conversation continuait ainsi, un aparté s'engagea sous la table entre les deux jeunes gens. La jolie pantoufle de Nathalie chercha son chemin sur le tapis en tâtonnant jusqu'à ce qu'elle touchât la botte de Lancelot. Celui-ci, qui était en train de dévorer son déjeuner, leva la tête, puis, heurté une seconde fois, il abaissa ses yeux sur la table. Après avoir attendu un moment pour s'assurer qu'on ne faisait pas attention à elle, Nathalie prit son couteau et, d'un petit air distrait, se mit à découper en 6 fragments un morceau de jambon resté sur le bord de son assiette. Lance suivait cette opération d'un regard oblique. Il attendait évidemment que les miettes de jambon fussent disposées pour quelque signal télégraphique convenu entre lui et sa voisine. Pendant ce temps, la conversation allait bon train. Miss Lavinia se tournant vers Lance.
« Savez-vous, mon garçon, lui dit-elle, que vous m'avez causé une peur terrible ce matin ? Je dormais, ma fenêtre ouverte, quand je fus réveillée par le bruit d'un corps qui tombait dans l'eau. J'appelai la femme du steward, je croyais qu'il était arrivé un accident. »
Sir Joseph tourna la tête.
« Vous me rappelez, dit-il, une aventure bien extraordinaire ? »
Il fut interrompu par Lance, qui s'excusait en déclarant qu'à l'avenir, il s'enduirait d'huile tout le corps et qu'il se glisserait dans l'eau sans bruit comme un phoque.
« Une aventure bien extraordinaire, reprit Sir Joseph, qui m'est arrivée il y a déjà longtemps, quand j'étais jeune, 5 ans avant que je fisse votre connaissance, Richard. Je croisais, à la hauteur du Mersey, sur une barque de pilote de Liverpool que j'avais louée avec mon ami Dobbs, le même qui était célèbre pour ses favoris couleur d'acajou.
Les doigts noueux de Richard Turlington tambourinaient avec impatience sur la table. Il leva les yeux sur Nathalie. Elle disposait nonchalamment ses fragments de jambon sur son assiette, de manière à former un dessin. Lance la regardait faire d'un air de complète indifférence. Richard, les ayant contemplés pendant quelques instants, crut avoir trouvé la solution du problème qui l'avait tourmenté tout à l'heure. Il était simplement impossible qu'une tête aussi vide eût gagné les bonnes grâces de Miss Nathalie. Sir Joseph continua son récit.
Nous étions à 10 ou 12 miles de l'embouchure du Mersey, Dobbs et moi. Nous étions dans la cabine, occupés. »
Il s'arrêta en souriant pour chercher dans sa mémoire à quoi il avait été occupé.
À ce moment, Nathalie posa son couteau sur la table et son pied vint de nouveau heurter celui de Lance. Elle avait arrangé ses miettes de jambon comme il suit. Deux sur une ligne, les quatre autres sur une ligne perpendiculaire au-dessous. Lance regarda et répondit en heurtant deux fois Nathalie sous la table. Interprété selon leur code télégraphique, le signal de Nathalie voulait dire « J'ai besoin de vous voir en secret ». La réponse de Lance signifiait « Après déjeuner ». Sœur Joseph avait retrouvé le fil de son histoire. Nathalie releva son couteau. C'était l'annonce d'un nouveau signal. Nous étions tous deux dans la cabine, occupés de finir notre dîner, quand nous fûmes troublés subitement par des cris qui partaient du pont. Un homme à la mer. En quelques bonds, nous eûmes franchi l'escalier, croyant naturellement qu'un accident était arrivé à quelqu'un de notre équipage. C'était aussi l'idée du timonier qui avait donné l'alarme. Ici, Sir Joseph fit une pause. Il était arrivé au point le plus dramatique de son histoire et il songeait à en tirer le plus d'effets possible. Il réfléchit un moment, la tête légèrement inclinée de côté. Nathalie posa de nouveau son couteau et toucha Lance avec la pointe de son pied. Cette fois, 5 pièces de jambon étaient rangées sur une ligne et la 6e placée au-dessous de celle qui était au centre. Traduction, mauvaise nouvelle. Lance cherchait des yeux le patron du yacht. Ce regard disait « Est-ce de lui que vient l'ennui ?» Nathalie fronça les sourcils. Il avait deviné juste. Lance jeta de nouveau les yeux sur l'assiette de Nathalie. Elle prit les carrés de jambon et en fit un tas. Elle n'avait plus rien à lui communiquer. « Eh bien, » dit Richard Turlington, se tournant brusquement vers Sir Joseph, « continuez donc votre histoire. Qu'est-ce que c'était ?» Jusqu'alors, il n'avait pas daigné prêter la moindre attention au récit de son vieil ami. Ce fut la dernière phrase de Sir Joseph qui parut piquer sa curiosité en laissant entrevoir que l'homme à la mer était étranger à la barque. Sir Joseph reprit sa narration. Arrivé sur le tillac, nous vîmes l'homme qui était dans l'eau en arrière de la barque. On mit en panne, le canot fut descendu, le patron et un matelot prirent les rames. Notre équipage était de 7 hommes, tous comptés. 2 étaient partis, le 3e à la barre, et quand je me retournai, je vis les 4 autres derrière moi. Personne ne manquait à l'appel. Au même moment, Dobbs, qui regardait à travers une lunette d'approche, poussa une exclamation de surprise. « Qui diable peut-il être? Il flotte sur une cage à poulet. Nous n'avions pas de cage dans la barque. » Lancelot Lindsay seul vit l'émotion qui, à ce moment, bouleversait les traits de Richard Turlington. La figure basanée du patron était devenue livide, ses yeux se fixaient sur le narrateur avec le farouche regard d'une bête fauve. Sans qu'il tournât la tête du côté de Lance, il sentit que ce dernier l'examinait. Il appuya le coude sur la table et cacha son visage dans sa main pour écouter la fin de l'histoire sans laisser voir l'expression de ses traits. L'homme fut hissé à bord, poursuivit Sir Joseph, avec sa cage à poulet. Le malheureux était bleu de froid et de peur. Il s'évanouit lorsqu'il fut déposé sur le pont. Quand il revint à lui, il nous conta une terrible histoire. C'était un pauvre matelot étranger qui, dénué de tout et malade, s'était caché dans la cale d'un vaisseau anglais en partance pour un port de son pays, lequel avait quitté Liverpool le matin du même jour. On l'avait découvert et amené devant le capitaine. Le capitaine, un monstre à figure humaine s'il en fut jamais. Avant que Sir Joseph eût terminé sa phrase, Turlington, au grand étonnement de la petite société, se leva brusquement. « La brise ! » s'écria-t-il. « La brise, enfin !» Tout en parlant, il cherchait la porte, de manière qu'il tournait le dos à ses hôtes, et il se mit à crier aux hommes sur le pont. « D'où vient le vent ?»«
Pas de vent, patron !»
Dans la cabine, on n'avait pas senti le moindre mouvement. Pas un bruit n'avait été entendu qui eût annoncé que la brise se levait. Le patron, que l'on savait familiarisé avec la mer, très capable à l'occasion de manœuvrer lui-même son navire, avait commis là une étrange erreur. Il revint vers ses amis et débita ses excuses avec un flux de paroles de politesse tout à fait inusité dans sa bouche.
« Allez toujours, » dit-il enfin à Sir Joseph. « Jamais de ma vie je n'ai entendu raconter une histoire aussi intéressante. Allez, je vous prie. »
Ce qu'il demandait là n'était point chose facile. Les idées de Sir Joseph étaient complètement troublées. La contenance de Turlington achevait de lui ôter ses moyens. Le patron, loin de l'encourager, le terrifiait. Il le regardait en face, les bras croisés sur la table, avec des yeux qui exprimaient une farouche résolution de rester à la même place pour l'écouter, si besoin en était, jusqu'à la fin de ses jours. Ce fut Lance qui remit Sir Joseph en train. Après avoir examiné Richard avec attention, il ramena son oncle au cœur du sujet par une question.
« Vous ne voulez pas dire que le capitaine ait jeté cet homme à la mer ?»«
C'est précisément ce qu'il a fait, Lance. Le pauvre malheureux était trop malade pour gagner son passage. Le capitaine dit alors qu'il ne voulait pas de fainéant étranger à son bord pour manger les provisions de braves Anglais qui travaillaient. De ses propres mains, il jette à l'eau la cage à poulet, puis l'homme après la cage, avec l'assistance d'un de ses matelots, et il lui crie de flotter à Liverpool avec la marée du soir.
« Mensonge !» s'écria Turlington, s'adressant non pas à Sir Joseph, mais à Lancelot.
« Vous êtes donc au courant ?» fit celui-ci avec beaucoup de calme.
« Je ne connais pas l'histoire. Je dis seulement, d'après ma propre expérience, que les matelots étrangers sont encore plus impudents que les matelots anglais. Cet homme aura eu quelque accident, sans doute. Le reste était un mensonge, inventé pour exploiter Sir Joseph. »
Sir Joseph hocha la tête doucement. Il ne mentait point, Richard. Des témoins ont confirmé son récit.
Des témoins ? Bah, d'autres menteurs, vous voulez dire ?
Je suis allé trouver les propriétaires du navire, je me suis fait donner les noms des officiers et de l'équipage, et j'ai attendu, après avoir fait ma déposition au bureau de la police de Liverpool. Le bâtiment avait sombré à l'embouchure de l'Amazone, mais l'équipage et la cargaison avaient pu être sauvés. Ceux qui étaient de Liverpool revinrent. De mauvais gardements, je vous assure. Cependant, ils furent interrogés séparément, et tous racontèrent la chose de la même façon. Ils ne purent fournir aucun renseignement sur le capitaine, ni sur le matelot qui l'avait aidé dans la perpétration du crime. Ils déclarèrent seulement que ces deux personnages n'avaient pas voulu s'embarquer sur le navire qui avait ramené le reste de l'équipage à Liverpool.
« Avez-vous su son nom ?»
La question venait de Turlington. Même Sir Joseph, le moins observateur des hommes, fut frappé de l'irritation inexplicable que trahissait sa voix.
« Ne vous fâchez pas, Richard, » dit le vieux gentleman. « Qu'est-ce qu'il y a donc là pour vous mettre en colère ?»«
Je ne vous comprends pas. Je ne suis pas en colère. Il me tarde seulement d'apprendre si vous avez su qui c'était. »
« Je l'ai su. Il s'appelait Goward. Il était bien connu à Liverpool pour un homme habile et dangereux. Au temps dont je parle, il était jeune, d'ailleurs un marin consommé. Il passait pour prendre volontiers le commandement de navires en mauvais état et d'équipages racolés. On disait qu'il avait amassé à ce métier une fortune assez considérable pour un homme dans sa position. Il se mettait au service de gens tarés, vous savez, et courait toutes sortes de risques désespérés. Un vilain compère, Richard. Plus d'une fois, il a été inquiété des deux côtés de l'Atlantique pour des actes de violence et de cruauté. Il doit être mort depuis longtemps.
Ou bien, qui sait, dit Lance, il vit peut-être sous un autre nom et fait fortune dans une autre carrière, en courant des risques encore plus désespérés, mais d'une autre sorte.
« Est-ce que vous êtes au courant ?» demanda Turlington en retournant la question de Lance contre ce dernier, avec une nuance de défi dans sa rude voix.
« Que devint le pauvre matelot étranger, petit père ?» dit Nathalie, interrompant Lance à dessein, avant qu'il ne pût répliquer durement à la question durement articulée de Turlington.
Nous fîmes une collecte et nous le recommandâmes à son consul, ma chère enfant. Il retourna dans son pays, le bonhomme, sans autre accident.
Et c'est ainsi que finit l'histoire de Sir Joseph, dit Turlington en quittant son siège bruyamment.
C'est dommage que nous n'ayons pas à bord un lettré, il en ferait un roman.
Il regarda le ciel par la claire voix.
Voici la brise, ajouta-t-il, et cette fois pour de bon.
C'était vrai. La brise était venue à la longue. Les voiles clapotaient. Le gui tourna brusquement. Les eaux, enfin réveillées, bouillonnaient le long du navire.
« Viens sur le pont, Nathalie, pour prendre l'air !»
dit Miss Lavinia en se dirigeant vers la porte de la cabine.
Sa nièce releva le bord de sa robe et constata qu'un volant était décousu sur une longueur de plus d'un mètre.
« Donnez-moi d'abord une demi-heure, ma tante, dit-elle, pour recoudre ma jupe. »
Miss Lavinia haussa ses vénérables sourcils avec une expression de surprise non déguisée.
« Tu ne fais que déchirer, ma chère, depuis que tu es sur le yacht de M. Turlington. C'est bien extraordinaire. Je n'ai pas déchiré ma robe une seule fois pendant toute la croisière. »
Les joues brunes de Nathalie se colorèrent d'une nuance plus sombre.
« Je suis si maladroite à bord »
dit-elle avec un petit rire forcé, et elle fut s'enfermée dans sa cabine. Richard Turlington avança sa boîte aux cigares.
« Après déjeuner, dit-il à Sir Joseph, c'est le moment de la journée où le cigare a le meilleur goût. Venez sur le pont. »«
Vous allez nous rejoindre, Lance ?» fit Sir Joseph.
« Donnez-moi un moment pour étudier un peu, » repartit Lancelot. « Il ne faut pas que je me rouille tout à fait. Le soir, je n'aurai plus envie de travailler. »«
Bien, bien, mon garçon, à votre aise. » Sir Joseph donna une tape amicale sur l'épaule de son neveu, qui alla s'enfermer à son tour, pendant que les trois autres personnages montaient ensemble sur le pont.